du journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. J-3 avant l'investiture. Mercredi, Donald Trump à la Maison Blanche, ce sera du passé. Joe Biden prendra les commandes. Cérémonie pleine de paillettes, mais la fête à la télé. Washington en forteresse. Soulagement dans tous les pays de l'Union Européenne. Ce ne sera pas 3 ou 4 semaines de retard dans la livraison des vaccins Pfizer, mais seulement une semaine. Vaccination élargie aux plus de 75 ans. Dès demain en France, on verra comment ça marche. Dessine-moi un mouton, lézard, dessiner une revue trimestrielle pour tous les amoureux du trait. Et puis les sports, le foot, l'OM s'incline à domicile, les supporters en colère. L'alpinisme, l'exploit au sommet du K2 pour une équipe de Népalais hier. Ce sera notre esprit sport à la fin du journal.
À 8h20, notre invité, question sur la psycho-écologie. On va en parler avec Boris Cyrulnik. Son dernier livre, Des âmes et des saisons, psycho-écologie, va paraître mercredi chez Odile Jacob.
France Inter. 46 chansons pour le 46e président des États-Unis, de la star en pagaille au micro pour l'hymne national, Lady Gaga, ma grande amie, comme l'appelle Joe Biden, suivie d'une grande soirée télé animée par le comédien Tom Hanks avec sur scène Bruce Springsteen, les Foo Fighters ou encore Justin Timberlake. Mais quoi qu'il arrive, cette investiture mercredi fera l'histoire. D'abord, le président sortant, pour la première fois en 150 ans, ne sera pas présent. Et puis, entre le Covid et les appels à l'insurrection des pro-Trump, la place du Capitole restera déserte. Le cœur de Washington en camp retranché, c'est un reportage de Franck Madvon.
Au fil des jours à Washington, les clôtures sont de plus en plus hautes, les forces de l'ordre de plus en plus présentes et le périmètre de sécurité de plus en plus large. Quelques passants s'aventurent dans le vaste secteur autour du Capitole, fermé à la circulation.
On vient de se promener en ville et c'est surréaliste. Les rues fermées, la police et la garde nationale partout, les clôtures, on se croirait dans un film, comme si ce n'était pas réel.
C'est très inhabituel de voir des soldats dans les rues aux États-Unis. On se croirait dans un autre monde, dans un autre pays.
Beaucoup des 25 000 soldats prévus mercredi sont déjà déployés. Des tentes de contrôle sont installées à l'entrée des zones les plus proches du Capitole. Un homme armé a été arrêté hier dans ce secteur. Pour Zanon, économiste qui travaille depuis 8 ans à Washington, le dispositif est nécessaire.
J'étais en train de marcher et ça m'a fait penser à ces zones militaires ultra sécurisées où on peut à peine se déplacer. Lors des événements au Capitole, ils ne s'étaient pas préparés. Ils n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour protéger à la fois les gens, le Capitole, les politiques, ils veulent juste que ça n'arrive pas à nouveau.
Au niveau local, beaucoup d'États ont décidé de fermer leur capitole en réponse aux appels à manifester ce dimanche. Washington, Franck Madvon, France Inter.
Joe Biden lui a déjà promis de signer une série de décrets dès les premiers jours de sa présidence. Les États-Unis devraient réintégrer dès mercredi, notamment l'accord de Paris sur le climat. Biden promet aussi, après 4 années de tension, de réparer la relation avec les Européens, notamment en ce qui concerne les droits de douane, en hausse de 25% par exemple depuis 2 ans sur le vin. Ce matin dans la presse, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, plaide pour un moratoire sur toutes ces taxes. Jean-Yves Le Drian qui compte également sur un retour des États-Unis dans l'accord de Vienne, signé en 2015, dans lequel l'Iran s'engage à ne pas se doter de l'arme nucléaire contre une levée des sanctions. Un accord que Donald Trump a brutalement quitté. Résultat, selon le ministre des Affaires étrangères, eh bien, l'Iran est en train d'acquérir l'arme nucléaire. Il est urgent de dire que cela suffit.
Dans la livraison des vaccins Pfizer, ce ne sera finalement pas 3 ou 4 semaines de retard, mais une seulement.
Après les sueurs froides, le ouf de soulagement dans tous les pays de l'Union européenne, le laboratoire doit faire des travaux dans son usine de Belgique et promet un retour à la normale d'ici le 25 janvier, avec même une augmentation des cadences à partir du 15 février. Le vaccin comme la promesse d'un retour un jour à la vie normale et la campagne de vaccination qui monte en puissance en France, élargie dès demain aux plus de 75 ans et aux plus vulnérables, soit plus de 5 millions de personnes invitées à prendre rendez-vous. À ce jour, 413 000 personnes ont été vaccinées. Comment ça se passe notamment quand on est âgé? Hélène Chevalier a suivi Alain au centre médical d'Alfortville dans le Val-de-Marne.
Vous le prenez avec vous. Avant de se faire vacciner, Alain est invité à remplir un formulaire avec une demi-douzaine de questions.
Je suis enceinte, non, ça ne m'est jamais arrivé.
Plus sérieusement, le docteur Patil Balikjian va ensuite reprendre ce questionnaire pour s'assurer qu'Alain n'a pas de contre-indication à la vaccination.
Vous n'avez pas eu d'infection à coronavirus non. Dans les 3 mois qui précèdent, très bien. Ni de symptômes, jamais d'allergie sévère, type...
Non, jamais, non, à ma connaissance, non.
Okay, bah écoutez, c'est bon.
La médecin pratique ensuite l'injection dans un bras.
Une petite douleur musculaire qui peut apparaître après l'injection. Donc si vous êtes droitier, plutôt à gauche. Alors j'y vais, je pique. Alors, je vous laisse tenir le petit bout de coton, même si bon, ça saigne pas.
C'est déjà fait ?
Oui, voilà.
Et oui, ça y est, Alain, vacciné. Mais pas question pour ce diabétique de reprendre une vie sociale dès demain.
Il faudra attendre un peu, voilà, je crois.
Oui, déjà, au moins d'avoir les deux doses. Mais il faut quand même rester vigilant. On attend un peu d'avoir du recul.
À l'issue de la consultation, le docteur Balidjian remet à Alain un certificat de première injection avec la date et le nom du vaccin.
Et donc, deuxième dose dans 28 jours.
15 petites minutes dans la salle d'attente afin de s'assurer qu'il ne fait pas de réaction allergique, et Alain ressort du centre un peu moins d'une demi-heure après son arrivée.
La question parfois n'est plus de vouloir, mais bien de pouvoir se faire vacciner. Certains des 800 centres affichent complets, les répondeurs saturés. Dans certaines communes, il n'y a plus de rendez-vous avant mars ou parfois même avril. Les maires de Nevers, de Dijon, de Paris tirent la sonnette d'alarme. Il faut plus de doses, disent-ils, et plus de moyens pour les acheminer. Impossible de vacciner tout le monde en quelques jours seulement. Il faut garder son calme, a répondu hier le Premier ministre. Autre question à la une, faut-il vacciner les très anciens ? L'agence norvégienne du médicament soupçonne un lien entre 13 morts et les effets secondaires du vaccin, fièvre et nausées, qui peuvent être fatales aux plus fragiles. Les victimes avaient autour de 90 ans et étaient toutes très frêles ou gravement malades. Tous les tests pratiqués sur les plus jeunes n'ont montré aucun incident grave. Contrer l'épidémie, arrêter le compteur, c'est bien ça le but du couvre-feu. La France qui vient de franchir le cap des 70 000 morts du Covid. La vie dehors s'arrête à 18h désormais et pour 15 jours. Une mesure dans l'ensemble bien respectée, ont noté les gendarmes dès hier soir. Warren Goupil, commandant de la compagnie de Cherbourg, avec Pierre Coquelin de France Bleu Cotentin.
Bon, là, il y a encore 2-3 voitures, il y a encore 2-3 retardataires, mais à 18h, les rues se sont vidées de manière automatique. C'est pas nouveau parce que depuis le début, les gens sont plutôt respectueux du couvre-feu. Ce soir, c'est la pédagogie, et puis en revanche, les autres soirs, on fera plus de pédagogie, quoi. Voilà, il faudra respecter les règles. Mais comme on le disait, la population depuis le début, l'instauration du couvre-feu, c'est particulièrement bien comporté, quoi.
Mais ce confinement des 18h ne convient pas à tout le monde. Il aurait dû être proportionnel, gradué selon les territoires, déplore le maire de Saint-Brieuc qui regrette le manque de consultation et qui dénonce les préfets le petit doigt sur la couture. Lui va donc rester très souple. 2 cas de Covid dans sa ville, Hervé Guillard va garder la limite de 20h.
À Saint-Brieuc, on va continuer à ouvrir les écoles, les crèches, les centres de loisirs, les centres d'accueil, jusqu'aux horaires classiques, parce que sinon, ce sont toujours les plus défavorisés qui trinquent. On n'a pas la même situation. On a 50% d'augmentation, c'est vrai, mais on est passé de 0 à 2 en réanimation. Donc on n'est pas dans un territoire encore en crise. Si nous étions en crise, j'aurais pas du tout cette réaction, évidemment.
Hervé Guillard, le maire rebelle de Saint-Brieuc avec Édouard Marguier. Et puis une date inscrite au fer blanc sur leur calendrier, le 20 janvier, les stations de ski sauront si le gouvernement les autorise ou non à rouvrir pour les vacances scolaires de février, une période qui pèse 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 100 000 emplois saisonniers en suspens. Et ce matin, l'appel du PDG du Club Med dans le journal du dimanche, Henri Giscard d'Estaing, qui a écrit à Jean Castex, il faut sauver la montagne du désespoir. Autoriser les stations de sport d'hiver à n'accueillir des clients qu'au début du mois de mars aurait autant de sens que l'ouverture des plages en octobre. Fin de citation. Chez nos voisins britanniques, la situation est toujours catastrophique. Le variant considéré comme jusqu'à 74% plus contagieux continue ses ravages, les hôpitaux sous l'eau. Mais pour autant, le masque n'est toujours pas obligatoire et le confinement imposé, qui pourrait même être prolongé, n'est pas vraiment respecté. Reportage dans les rues de Londres avec notre correspondant Richard Place.
Un coin de ciel bleu, un rayon de soleil et les rues se remplissent aussitôt. Des voitures, des passants, Londres ne paraît pas confinée. Il y a ceux qui font la queue devant le supermarché, sortir pour les courses, c'est autorisé. Ceux qui arpentent les trottoirs et les parcs pour leur jogging, autorisé aussi. Et puis il y a Catherine, qui sourit quand on lui demande si elle suit les directives du gouvernement.
Si elles sont logiques, je respecte les règles, jusqu'à un certain point. Je marche beaucoup, alors je marche parfois plus loin que ce qui est autorisé. Mais je ne cours pas partout, en serrant les gens dans mes bras. J'aimerais, mais je ne le fais pas.
Estelle est française, installée depuis 26 ans dans la capitale anglaise. Avec son compagnon, le confinement, il trouve ça très bien.
Je l'ai respecté en fait depuis le début. Et maintenant, nous sortons juste parce que nous emmenons notre petit chien se faire toiletter en fait. Ce dernier lockdown ne fait que retourner en arrière constamment. Un cercle vicieux quelque part.
Anthony Johnson, lui, ne comprend pas pourquoi tous ces gens sont dans la rue. Cet infirmier enrage.
Et je vois encore plein de gens qui ne respectent pas les conseils.
Des directives gouvernementales floues. Un exemple, si vous faites du sport, vous devez rester dans votre secteur sans plus de précision. Londres, Richard Place, France Inter.
En bref, dans le reste de l'actualité, situation tendue en Tunisie, manifestation contre la crise économique qui a dégénéré hier soir dans plusieurs grandes villes. Le Premier ministre doit annoncer dans la journée un remaniement gouvernemental. La réélection à 76 ans du président ougandais Museveni au pouvoir depuis 1986. Son rival dénonce fraude et violence. Et puis 3 ans après MeToo, voici le hashtag MeTooInceste. Des milliers de tweets et de témoignages de victimes hier sur les réseaux après les révélations de Camille Kouchner sur son beau-père. Le politologue Olivier Duhamel accusé d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau lorsqu'il était adolescent. L'inceste, sujet toujours tabou en France alors qu'une personne sur 10 serait touchée. L'inceste n'est toujours pas une infraction en soi, il n'est qu'une circonstance aggravante. Les associations réclament une loi et la fin de toute prescription.
Voilà une revue trimestrielle passionnante pour les amateurs de dessin sous toutes ses formes.
Les arts dessinés, c'est son titre, explore les univers d'artistes alors qu'ils viennent de la BD, de la peinture, du design ou même de l'architecture. Bref, tout ce qui relie la main et le trait, l'art à portée de l'œil, Jacqueline Petros a feuilleté pour nous.
C'est un super inventaire à la Prévert, une balade dans l'univers du chef décorateur Jean Rabas, un voyage aux antipodes avec Jacques Loustal, mais aussi Jean-Claude Gotting, le graphiste Winschluss, Rebecca D'Autremer, des entretiens et de l'actu, 164 pages foisonnantes de styles différents et de créations, une immersion dans le trait et les couleurs, Frédéric Bosser, rédacteur en chef des arts dessinés.
Tout ce qui est à partir d'un dessin peut devenir, entre guillemets, de l'art, c'est-à-dire évidemment de la bande dessinée, des illustrateurs livres pour enfants, des illustrateurs tout court, des dessinateurs de presse, des architectes, des costumiers, des décorateurs. C'est vrai qu'on se retrouve avec la quintessence même du travail, ces recherches qui après vont devenir quelque chose. C'est vrai que c'est tout ce travail-là que je trouve passionnant.
Pour cette revue, une campagne sur Kiss Kiss Bang Bang a été lancée, un financement participatif qui crée un lien entre les lecteurs.
C'est vrai qu'il y a des gens qui vont venir en disant bah, « Tiens, on aide les arts, c'est une manière d'aider. » C'est assez plaisant. Puis c'est vrai que ce qui est intéressant dans les arts dessinés, c'est pour ça que je voulais faire un écrin très très beau, c'est déjà que les gens le gardent et puis qu'après ça devienne des espèces de références en termes de travail. C'est vrai qu'une revue comme celle-là, c'est un moment de partage, quoi. Donc quand le partage il existe, c'est génial.
Les arts dessinés se déclinent aussi en hors-série, comme celui consacré à Catherine Meurice et son exposition à la Bibliothèque Nationale. Offrir d'ouvrir une porte sur la culture en cette période est primordial.
Les arts dessinés en kiosque et pour le financement participatif Kiss Kiss Bang Bang, c'est jusqu'à demain.
8h12, les sports.
Net sans bavure, mais service minimum. Le PSG reprend la tête de la Ligue 1 après sa victoire sans phare hier sur Angers 1-0. Marseille, de son côté, a coulé, battu 2-1, douche froide dans son antre pourtant du Vélodrome face à Nîmes. L'OM qui n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs. Les supporters ont encore beaucoup crié hier contre le président Jacques-Henri Hérault. C'est un reportage de Jean Saint-Marc.
Ils ne peuvent pas siffler au stade, alors ils crient sur le parvis. Des banderoles et des autocollants le traitant d'escroc fleurissent en ville. Les fans marseillais sont remontés contre leur président.
Par rapport aux autres présidents français, par exemple par rapport à Aulas, il n'a aucune crédibilité. Quand on voit comme il galère pour négocier un joueur, je me souviens que par exemple, dès qu'un club négocie avec nous, ça se voit par exemple, on ne peut pas avoir la crédibilité de leur faire peur ou leur mettre la pression. Le monde du football, ils savent qu'on est géré par un guignol.
Jacques-Henri Hérault n'écoute pas les supporters, accuse Jérémy Felkowski. Il fait partie du Massilia Socios Club. Ses fans ont levé 130 000 euros pour financer l'OM, mais le projet a avorté.
On nous a fait des promesses, on nous a invités très officiellement à la table des négociations. Et peu à peu, M. Hérault et son équipe ont vidé l'accord de son contenu. Il a effectivement manqué à sa parole de notre point de vue.
Jacques-Henri Hérault n'a pas non plus rompu le dialogue avec les supporters. Il parle en privé avec quelques leaders des virages, mais il est peu probable que cela suffise à calmer la colère des Marseillais, surtout après une défaite humiliante contre Nîmes. L'ambiance devrait donc encore être explosive autour du stade mercredi lors de la réception de Lens.
Allez, on va prendre de la hauteur ce matin dans Esprit Sport. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
De l'alpinisme avec un exploit hier. Le sommet du K2, le dernier à plus de 8000 mètres qui n'avait pas encore été gravi en plein hiver, eh bien ça y est, c'est fait. Une équipe de Népalais, Laetitia.
Le deuxième sommet le plus haut de la planète, 8611 mètres, situé à la frontière sino-pakistanaise. L'équipe qui a réussi son ascension, en plein hiver donc, est emmenée par Nims Day, autrement dit, pas par n'importe qui. Il est connu pour avoir notamment gravi, il y a un peu plus d'un an, les 14 plus hautes montagnes du monde en moins de 7 mois. Alors cette fois, il a planté le drapeau de son pays en haut du K2, après une ascension dans les conditions extrêmes, même avec de l'oxygène. Voici Voici un extrait du commentaire qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Nous sommes fiers de montrer que la collaboration, le travail d'équipe et une attitude mentale positive peuvent repousser les limites à ce que nous pensons être possible. Merci à tous les soutiens que nous avons reçus de la part de personnes du monde entier. Cela nous a donné le feu dans la poitrine pour faire de cet objectif une réalité.
Oui, parce que cette montagne est très très dangereuse et sa réputation, surtout en hiver.
Effectivement, pendant les autres saisons, des alpinistes expérimentés ont déjà réussi son ascension, mais en hiver, les difficultés ne font qu'augmenter avec des vents à plus de 200 km/h, des températures qui descendent à moins 60 degrés, des éboulements, la pression atmosphérique y est plus basse, l'air plus rare. Pour vous donner une idée, cela fait 33 ans que différentes expéditions échouaient en essayant de le gravir à cette saison. Et jusqu'à hier, personne n'avait pu aller au-dessus de 7650 mètres.
Et malheureusement, que ce soit hiver ou été, de très nombreux alpinistes se tuent sur ces pentes.
Oui, selon des données de 2016, des chiffres avancés évoquent près de 80 morts pour 400 succès depuis la première ascension en 1954. Seule l'Annapurna présente un taux de mortalité légèrement plus élevé. La journée la plus noire de l'histoire du K2 est le 3 août 2008. 11 hommes étaient morts en le redescendant suite à la chute d'un sérac, un bloc de glace de grande taille qui avait provoqué une avalanche. Alors non, vraiment, ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme, ce K2, la montagne sauvage ou la montagne sans pitié.
Merci Laetitia. Bernard, à propos de grande aventure, coup d'œil sur le Vendée Globe pour finir. Les skippers sont en train de passer l'équateur, mais c'est la bataille en tête de la flotte. Tout se joue dans un mouchoir de poche, c'est peu de le dire, entre Dalin revenu devant, Burton Herman et Ruyan qui suivent juste derrière.
C'était le journal d'Hélène Roussel, le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Il n'y a plus de département alerte orange, neige et verglas, Jean-Michel Golaski.
L'épisode hivernal se termine. Aujourd'hui, la neige se replie sur les régions les plus à l'est, des Vosges aux Alpes du Nord, avec des flocons à partir de 500 mètres, dans des températures matinales encore faiblement négatives, qui vont remonter vers 4 degrés en moyenne cet après-midi. Partout ailleurs, le redoux se confirme avec une dizaine de degrés au lever du jour sur l'Aquitaine, le bassin méditerranéen, 8 sur la Bretagne et au sud de la Garonne et 2 à 6 degrés sur les autres régions. Autour de la Méditerranée, sur la Corse, le vent très turbulent va maintenir un ciel dégagé. Par contre, au sud de la Garonne, l'ambiance sera maussade et neigeuse sur les Pyrénées à partir de 1500 mètres. Sur le reste du pays, l'embellie se confirme avec un risque d'ondées matinales du massif central au nord de la Seine et le retour d'éclaircies plus larges par l'ouest en journée, dans des températures en hausse avec 6 à 10 degrés en général, jusqu'à 12 sur le Pays Basque et 13 à 15 près de la Méditerranée.
Jean-Michel Golaski de Météo France.